Michel Rocard, dont on rappelait au cours d'une émission spéciale hier sur cette antenne qu'il était le père de la gauche réformiste, est aussi le Premier ministre qui a le plus utilisé l'alinéa 3 de l'article 49 de la Constitution dans toute l'histoire de la 5e République, soit plus de 28 fois en 3 ans. C'est peut-être ce que se dit pour se rassurer le Premier ministre Manuel Valls, alors que la loi travail arrive demain en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Car le doute plane, le gouvernement aura-t-il une nouvelle fois recours à l'arme constitutionnelle pour le faire adopter? Tout est affaire de contexte. Si du côté des syndicats et de la rue, les choses semblent se calmer un peu, du côté politique, c'est une autre histoire. Le gouvernement n'a plus la maîtrise de sa majorité. Après le passage à la moulinette du Sénat dominé par l'opposition, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a rétabli l'essentiel du texte présenté le 10 mai dernier. Un texte pour lequel les députés socialistes avaient déposé 1402 amendements, dont 405 déposés par les frondeurs. Pourront-ils cette fois en discuter? C'est ce que semble souhaiter en tout cas 73% des Français opposés au 49-3. Loi travail, acte 2, la revanche des parlementaires, c'est notre sujet du jour. Et trois invités autour de la table pour en parler. Nicolas Rousseli, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, auteur de « La force de gouverner le pouvoir exécutif en France, 19e, 21e siècle », une somme chez Gallimard sortie à la rentrée 2015 et qui revenait, on peut le dire, sur ce couple hein, exécutif-législatif, la façon dont l'exécutif avait peu à peu pris le pas sur le législatif dans notre pays. À vos côtés, Didier Mauss, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de droit constitutionnel, vous avez bien d'autres casquettes, mais voilà, c'est celle-ci qui vous sied le mieux ce soir pour cette discussion. Et enfin, Catherine Colliot-Hélène, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, auteur de La démocratie sans démos, c'était aux Presses universitaires de France en 2011, et ces questions justement, évidemment, démocratiques, voilà, de fonctionnement démocratique vous intéressent évidemment. Alors, on l'a compris, ce soir, on ne va pas se pencher sur le fond de la loi, beaucoup d'émissions y sont revenues, voilà, ça a été beaucoup commenté, mais plutôt sur son parcours législatif et ce qu'il dit de nos institutions, de leur bon fonctionnement ou non. Et donc, première question à vous trois, comment interpréter selon vous cette séquence qu'on vient de vivre autour de la loi travail? Est-ce que, et notamment évidemment l'utilisation du 49-3, est-ce que c'est la preuve d'une dérive autoritaire comme certains l'ont dit, ou bien d'un fonctionnement normal des institutions contre peut-être l'obstruction parlementaire? Didier Mauss.
C'est d'abord un fonctionnement constitutionnel des institutions. Et je crois qu'il faut insister dessus. La procédure de l'article 49 alinéa 3 est prévue. Bon, et donc le Premier ministre, s'il estime devoir l'utiliser, eh bien, peut le faire. Je dirais, il n'y a pas d'obstacle juridique à le faire. Et j'ajoute tout de suite qu'il y a quand même une phrase dans la Constitution qu'il ne faut jamais oublier, c'est l'article 20. Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Bon, c'est-à-dire que la responsabilité des grandes directions, c'est évidemment le président de la République, mais c'est aussi le gouvernement, c'est le tandem actuellement, président-gouvernement. Voilà. Et donc je crois que dans cette logique, le 49-3 est juridiquement parfaitement utilisable. Un mot, vous venez de citer Michel Rocard. Alors c'est vrai qu'il a statistiquement beaucoup utilisé l'article 49 alinéa 3, mais il a été le seul Premier ministre qui ne disposait pas d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Il lui manquait entre 10 et 15 voix pour être sûr de l'avoir, et donc il a fait passer beaucoup de textes, notamment la CSG ou le RMI, sauf erreur de ma part, à coup de 49 alinéa 3, et il n'a jamais été renversé. Bon, car si véritablement il y avait eu une opposition majoritaire, eh bien le gouvernement aurait été renversé.
Car il faut rappeler le fonctionnement de cet article 49 alinéa 3. Il permet d'adopter la loi sans passer par un vote, mais il y a quand même, un vote de confiance qui est demandé.
C'est un système extrêmement brutal, mais simple. Soit vous renversez le gouvernement, soit la loi est considérée comme adoptée. Bon, et dans des cas extrêmes, eh bien c'est une solution que un Premier ministre en difficulté a normalement la possibilité d'utiliser.
Alors voici pour la lettre de la loi, mais pour son esprit, Nicolas Rousselier, est-ce que politiquement, cette utilisation du 49-3 est satisfaisante ou est-ce que ça montre une forme de dysfonctionnement aujourd'hui?
Alors, je crois qu'il faut bien dire qu'il y a un changement de contexte. Effectivement, au-delà de la lettre constitutionnelle, il y a des différences dans les périodes, les conditions politiques et les conditions sociales. On parle de Michel Rocard, et comme vient de le dire Didier Mauss, au fond, l'utilisation du 49-3 sous Rocard, c'est, disons, un instrument d'ajustement. C'est un instrument d'ajustement de sa majorité à la marge. Et finalement, elle pouvait être perçue, enfin, l'usage du 49.3 sur Rocard pouvait être perçu comme légitime parce qu'il y avait des conditions favorables au-delà même du Parlement, à savoir un soutien de l'opinion, autant qu'on puisse mesurer un soutien de l'opinion par la cote de popularité, un parti politique lui-même, le PS, qui restait homogène, malgré toutes les tensions qu'il pouvait y avoir avec Mitterrand et le président. Or, ces conditions sont complètement différentes aujourd'hui.
On est aussi juste après l'élection, on est en 88, on est aussi juste après l'élection, enfin, on est dans les trois premières années après l'élection présidentielle, et non pas dans les dernières années.
Alors, c'est là exactement où je voulais en venir. C'est que, pour prendre une image, on pourrait dire que le 49-3, c'est un instrument de force. C'est le gouvernement qui utilise un instrument de force vis-à-vis du Parlement pour gagner du temps, pour formater le processus législatif. Mais en fait, un instrument de force s'utilise quand on bénéficie déjà d'une certaine force préalable, avant même le 49-3. La force préalable, c'est l'élection du président, par exemple, proche, ou c'est, disons, une popularité encore raisonnablement élevée. Or, aujourd'hui, évidemment, c'est pas du tout la même chose. On a en fait un gouvernement qui utilise un instrument de force alors qu'il est faible. Et quand on utilise un instrument de force alors qu'on est faible, on souligne sa faiblesse. Et donc, l'instrument n'est pas du tout perçu comme légitime. J'ajouterai une chose, mais c'est plutôt impressionniste de ma part, mais depuis quelques mois, il me semble que pour la première fois dans, disons, on pourrait se comparer l'histoire de l'utilisation du 49-3, pour la première fois, il me semble qu'il y a une sorte d'appréhension, de compréhension sociale, pour parler plus simplement par l'homme de la rue, le syndicaliste de base, et c'est pas méprisant dans ma bouche, qui a compris ce qu'était le 49-3 dans sa force, dans son caractère nu. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un passage en force, on peut faire une loi sans qu'elle ait été débattue.
Alors on va y revenir, Nicolas Rousselet, cette question, mais j'aimerais continuer ce tour de table, terminer plutôt avec vous, Catherine Colliot-Tellen, sur voilà cette articulation entre instruments légitimes parce que dans la Constitution, ou bien passage en force, et donc là, le problème un peu de légitimité.
Oui, mon point de vue sera nécessairement moins technique que celui de mes deux collègues.
C'est pour ça que vous êtes là, Catherine Colliot-Tellen.
D'accord. Oui, je voulais dire de manière générale, mais c'est une platitude, une disproportion dans les rapports entre les pouvoirs au profit de l'exécutif et au détriment
des législatives,
jamais considérées comme démocratiques. D'un autre côté, il va de soi que pour gouverner, il faut des instruments qui éventuellement permettent de passer par-delà un désaccord temporaire à l'intérieur de l'exécutif, etc. Bon, le 49-3. Intrinsèquement, il n'est pas démocratique, mais toute constitution, me semble-t-il, toute constitution, même démocratique, inclut un certain nombre d'instruments nécessaires pour le gouvernement et qui ne sont pas par eux-mêmes démocratiques.
Attends, excusez-moi, parce que j'aimerais qu'on s'arrête là-dessus. En quoi, selon vous, il n'est pas démocratique ? C'est-à-dire que l'exécutif qui a été élu, et on a rappelé l'article 20 de la Constitution, Didier Mauss l'a rappelé, qui dit que le gouvernement conduit la politique en France. Voilà, en quoi est-ce que ce n'est pas démocratique à ce moment-là ?
Mon idée, c'est que ce qui est en question aujourd'hui, aussi bien au niveau français, plus généralement aussi en Europe, pour des raisons qui sont à la fois différentes mais qui en même temps se recoupent, c'est la notion même de démocratie, c'est ce qu'on entend par démocratie. Et quand je disais simplement, dans toute constitution, il y a des instruments. Une constitution peut être démocratique au sens, oui, c'est une constitution, derrière il y a tout un processus, expression du pouvoir constituant, qui d'ailleurs est une abstraction, etc., tout un processus de constitution, mais à l'intérieur de cette constitution, il y a des aspects qui vont dans le sens de la démocratisation, de l'expression de, disons, l'opinion publique, les divergences d'intérêts, etc. Et puis, il y a des instruments qui permettent de gouverner. Et il y a toujours du sacrifice, si on peut dire, de démocratie au profil du gouvernement. Donc, je ne considère pas non plus que ça soit antidémocratique, mais que la chose en elle-même ne peut pas passer pour démocratique. Et donc, j'ai tendance à lire le 49-3 à la fois dans le cadre de l'histoire de la République française, mais aussi aujourd'hui, la façon dont il est perçu, me semble devoir s'inscrire dans un mouvement général qui dépasse la France, qui est aussi au niveau européen, qui est au niveau mondial, de déplacement des pouvoirs au profit des exécutifs pour des raisons qui ne tiennent pas simplement à la Constitution française. Et il me semble que la perception, alors d'une part, si le 49-3 est probablement beaucoup plus compris par beaucoup plus de gens aujourd'hui que précédemment, c'est sans doute à cause aussi de la nature de l'objet, me semble-t-il. Mais je crois aussi que ça tient à ce déficit démocratique qui est perçu de manière générale et qui est lié à des et qui n'est pas simplement lié à la politique française.
Alors ce matin sur France Culture, au micro d'Olivia Gesbert, donc dans les matins d'été, Jean-Claude Mailly, donc le secrétaire général de Force Ouvrière, disait dans une démocratie, le Parlement doit avoir le dernier mot. Est-ce que
tout à fait. C'est une expression que j'ai écoutée Jean-Claude Mailly et qui m'a frappé parce que Nicolas c'est typiquement Rousselier. Une expression qu'aurait utilisée un républicain, un parlementaire de la 3e et de la 4e République pour le situer dans l'histoire. En même temps, ce qu'on vient de dire est exact. Le 49-3 est clairement un instrument de réduction, rationalisation, parlementarisme rationalisé, ce qui veut dire réduction du temps disponible au Parlement. Donc c'est une réduction du débat. En ce sens, c'est évidemment un instrument qui va à l'encontre de la démocratie parlementaire. Mais il faut se souvenir, et ici j'essaie d'être objectif, il faut se souvenir que la Ve République installe un second circuit de légitimation, le circuit par l'élection du président. Quand vous élisez un président, il y a une plateforme, un programme. Dans ce programme, un certain nombre de points et de réformes sont promises. Si on utilise le 49-3 peu de temps après l'élection pour faire passer un élément de ce programme, eh bien, le gouvernement a cette légitimité de dire « le peuple a élu le président sur ce programme, ça n'est pas parce qu'il y a quelques incidences parlementaires que nous allons renoncer à gouverner ». Donc en ce sens, vous avez cette concurrence entre les deux démocraties qui se jouent. Mais je voudrais ajouter une dernière chose, c'est que le 49-3 est quand même entré depuis quelques années dans une période de remise en cause profonde, on le voit à mon avis, une sorte de remise en cause sociale qui est beaucoup plus forte qu'avant, comme je le disais tout à l'heure. Et puis, il y a la révision de 2008. C'est-à-dire que la révision de 2008 l'a quand même considérablement réduit.
Donc la révision constitutionnelle, je vais y arriver, de 2008, au moment du mandat de Nicolas Sarkozy.
On peut l'utiliser qu'une seule fois pour un projet ou une proposition de loi, comme si, en fait, les révisionnistes des années 2000, qui ne sont pas de gauche, hein, 2008, c'est la révision de Sarkozy, avaient eux-mêmes, en quelque sorte, la mauvaise conscience d'un usage du 49-3.
Vous venez de dire que ça ne peut être utilisé qu'une seule fois pour un projet. Là, ce serait utilisé une deuxième fois.
Non, c'est le même projet.
C'est le même texte.
On peut l'utiliser plusieurs fois.
Mais sur le même texte.
Exactement.
D'accord. Didymos.
Oui, non, mais je crois que Jean-Claude Mailly a raison. Le Parlement a le dernier mot. Parce que qu'est-ce qui se passe? Bon, si le gouvernement utilise l'article 49 alinéa 3 ces jours-ci, bon, il peut y avoir une motion de censure. Est-ce qu'une motion de censure de droite, une motion de censure des frondeurs, s'ils arrivent à être 60, et l'Assemblée nationale vote sur la motion de censure? Si véritablement, il y a à l'Assemblée nationale une majorité contre cette loi, elle a la possibilité de s'exprimer. Il y a simplement comme conséquence que le gouvernement est renversé et que la conséquence de la conséquence, en théorie pure, c'est la dissolution. Parce qu'il faut toujours quand même se souvenir d'où vient l'article 49 alinéa 3. Ce n'est pas une invention diabolique de Michel Debray en 1958. Il y a même une lettre de Michel Debray d'août 1958 où il est très réservé sur l'article 49 alinéa 3. C'est une invention de la 4e République qui voulait mettre fin à une situation ingérable du point de vue politique, qui était un gouvernement qui présentait un texte. Ce texte était rejeté, mais il n'était pas rejeté à une majorité telle qu'on pouvait entrer dans la logique ou de le renverser ou de la dissolution. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale privait le gouvernement de cette capacité de gouverner. Et le premier projet de ce qui va devenir l'article 49 alinéa 3, c'est dans des travaux de fin 57 menés autour du garde des Sceaux, et on en trouve l'expression dans le projet de révision de Félix Gaillard de janvier 1958. Bon, donc, j'irai à la virgule près, c'est pas tout à fait le même texte, mais c'est ça l'idée. Soit vous votez mon texte, vous le laissez passer, soit vous le renversez, parce que moi, gouvernement, je considère que c'est un texte fondamental. Alors ensuite, de discuter quel est le texte fondamental, je dirais, c'est pas notre problème. Moi, j'ai pas d'avis sur ce que pense M. Valls de sa loi sur le Code du Travail, mais c'est à lui de le dire. Mais je crois que là, fondamentalement, l'article 49 alinéa 3, c'est un système qui a été inventé pour permettre au gouvernement de gouverner. Bon, donc, ça marche bien. Moi, je n'aime pas critiquer ce qui correspond à son intention.
Ce que vous venez de dire, Didier Mauss, ça rejoint une expression qu'a employée Nicolas Rousselier, celui de parlementarisme rationalisé. Oui, Catherine Colliot-Tellen, comment ça résonne à vos oreilles de philosophe, cette idée de parlementarisme rationalisé? Comme si, finalement, quand on la somme des individus n'arrive pas forcément à une décision rationnelle ou...
Je ne pense pas que la somme des individus arrive nécessairement à une décision rationnelle. Je pense que même que l'argument des 73% de Français, je ne sais pas comment a été fait ce sondage en plus, mais c'est pas en soi un argument suffisant pour délégitimer une procédure quelle qu'elle soit. C'est à durement à prendre en considération, mais c'est pas l'argument. Mais en revanche, j'entends bien les arguments techniques sur l'histoire, enfin non seulement techniques, mais historiques sur l'histoire d'une procédure. Mais il me semble, parce que je suis persuadé qu'aucune constitution n'est parfaite, et n'est démocratiquement parfaite, des instruments répondent à certaines conjonctures. Il était question tout à l'heure de conjoncture et de contexte. Le problème est maintenant comment l'utilisation de ce. Quels effets a l'utilisation de cette procédure sur, grosso modo, les électeurs, les populations en matière de légitimation, de légitimité, de reconnaissance de la légitimité du gouvernement et du pouvoir.
Mais c'est le cas de toutes les procédures. Hein. Regardez le droit de dissolution, dont on dit en théorie que c'est un droit fondamental en régime parlementaire, parce qu'on redemande l'avis du peuple. Et quelquefois, ça fonctionne à contresens par rapport à ceux qui l'ont déclenché. La dissolution de Jacques Chirac de 1997 n'était pas faite dans son esprit pour avoir 5 ans de gouvernement Lionel Jospin. Et ben voilà. Donc je crois qu'il
c'est y a... C'est en jamais, c'est en jamais, parce qu'elle a été réélue après.
Oui, mais enfin bon, mais ça, c'est pour d'autres raisons. Bon, et donc je crois que la manière dont on utilise une procédure, on ne peut jamais savoir ce que ça va donner. Bon, et c'est de la responsabilité des hommes politiques, du président de la République, du Premier ministre en l'occurrence aujourd'hui, d'apprécier le risque vis-à-vis de l'opinion, d'apprécier le risque vis-à-vis de leur propre majorité, d'apprécier le risque, puisqu'on est à un an d'élection, vis-à-vis de l'élection du printemps 2017. Et là, j'allais dire, on ne peut pas le faire à leur place.
Nicolas Rousselier.
Oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit, mais je crois que la nouveauté depuis quelques mois, c'est qu'il y a vraiment un coût social dans la rue, dans l'usage du 49.3. Et moi, je me demande...
Ça ne s'est pas vu par le passé
Si, ça a pu se voir, mais il me semble que là, on a franchi un palier important dans des conditions qui sont spéciales, parce que c'est un usage du 49.3, un passage en force qui vient après l'échec du feuilleton d'échéance de nationalité... Et je me demande, en fait, si les prochains gouvernants vont pas y réfléchir à deux fois. Soit, il y a deux voies qui s'ouvrent, en fait. Soit, en se disant, on revient à la case chère à Jean-Claude Mailly, c'est-à-dire on redéveloppe le débat parlementaire. Ou bien, il y a une autre voie possible. C'est-à-dire que finalement, le 49-3 n'étant pas perçu comme un bon instrument de gouvernement, de passage en force, on peut reprendre d'autres, parce que la cinquième est un véritable arsenal d'instruments, et notamment il y a les ordonnances. Et quand on regarde les programmes, enfin tels qu'on peut y accéder par Internet, les programmes des candidats aux primaires de la droite, il y a ce mythe des 100 jours chez Fillon, et les mots ne sont pas vraiment prononcés, mais s'il s'agit effectivement de faire rapidement des ordonnances au forceps, ça passe peut-être, j'en sais rien, mais ça peut aussi déclencher à nouveau un mouvement social important.
Du grain à moudre d'été, Raphaël Bourgois.
Du grain à moudre d'été, loi de travail, acte 2, la revanche des parlementaires, c'est notre sujet du jour. On en discute avec l'historien Nicolas Rousselier, avec la philosophe Catherine Colliot-Tellen et avec le professeur de droit constitutionnel Didier Mauss. On a, je pense, dans cette première partie d'émission, bien défriché cette question de l'utilisation du 49.3. Et donc ça m'amène à cette question, malgré tout, comment dire, qui est posée par cette utilisation. Est-ce que ça veut dire que la Ve République est une République bonapartiste, déni de démocratie, qui donne trop de pouvoir à l'exécutif?
Le contexte est quand même très, très différent.
Rousselier.
On peut utiliser des mots pour donner du sens. Il y a une partie de sens dans ce que vous venez de dire, mais le contexte est extrêmement différent. Un des éléments qui rend le 49.3 très compliqué à utiliser, notamment socialement, comme je viens de le dire, c'est que, si vous voulez, pendant très longtemps, quand on est dans un régime parlementaire, ce que j'ai appelé le parlement d'éloquence, genre 3e République, période, disons, apogée, quand les lois sont votées en temps relativement raisonnable, et que les lois sont vraiment le produit d'une délibération tout à fait remarquable. Je pense par exemple à la loi de 1905. À ce moment-là, finalement, le Parlement peut discuter, comme des magistrats législateurs, finalement sans avoir à consulter la société extérieure, la société civile quasiment. Tandis qu'aujourd'hui, on voit pourquoi c'est compliqué. Il n'y a pas deux acteurs, l'exécutif et le législatif. Il y a un troisième acteur, les syndicats. Et on voit très bien que dans la loi travail, il ne s'agirait pas finalement pour Valls de trouver, tant que c'est possible, une majorité en limitant les frondeurs, parce que ça ne suffirait pas. Puisque à côté, il y aurait les revendications syndicales, la demande de faire chuter l'article 2, ou en tout cas, comme le disait Jean-Claude Maillet ce matin sur votre antenne, de modifier profondément l'article 2. Donc, en fait, le 49-3 peut aussi tourner à vide, parce que c'est un instrument de discipline parlementaire, mais il n'arrive pas à discipliner les syndicalistes. Et tant mieux.
Mais Nicolas Rousselier évoquait les différentes alternatives institutionnelles. Il y a aussi le référendum. Bon, on peut parfaitement un jour dire on essaye de réviser le code du travail par référendum. Ça rentre dans le cadre de l'article 11 pour faire un référendum. Bon, moi je serais un conseiller du gouvernement, je dirais allez-y mollo parce que c'est
mais
le genre de sujet.
Pas politiquement
mais,
très
oui,
opportun.
Mais juridiquement, c'est tout à fait possible. Alors, pour répondre à votre question, bon, les démocraties européennes d'aujourd'hui sont des démocraties dirigé par une majorité, laquelle majorité a un chef, lequel chef d'ailleurs peut être remis en cause à la suite d'un échec. Voyez Monsieur Cameron, bon, qui s'en va, bah parce que il n'y a pas eu le vote qu'il souhaitait. Bon, et c'est bien ça le cœur du problème, notamment en France. Nous avons encore une culture politique où nous avons beaucoup de mal à accepter qu'il y ait une solidarité politique entre la majorité de l'Assemblée nationale et le gouvernement. Mais cette solidarité, elle est de fait. Car qu'est-ce qui va se passer en mai et en juin prochain? Bon, les députés socialistes ne pourront pas dire qu'ils ne sont pas solidaires de ce qui aura été fait pendant 5 ans par le président Hollande et ses gouvernements. Bon, on va leur dire, mais si vous n'étiez pas d'accord, vous n'aviez qu'à voter contre, vous avez eu l'occasion de le manifester clairement, vous ne l'avez pas fait, donc vous êtes solidaires. Et ce problème du contrat de majorité, qui est nouveau, qui n'existait pas en réalité sous la Troisième République, il a un tout petit peu existé au début du XXe siècle dans les quelques législatures qui vont de 1898 à la guerre. Bon, mais c'est tout. Donc, pour le reste, il faut insister sur cette idée. Il y a une solidarité politique. Elle est encore plus forte en France à cause du rôle du président de la République. Car les députés, il faut bien voir les choses comme elles sont, ils sont élus sur le nom du président de la République. Et s'ils ont envie de s'en aller, eh bien qu'ils s'en aillent. Mais il y a des risques individuels.
Catherine Colotelaine, comment comprendre que dans un moment, dans un contexte où la question de la représentation est assez fortement remise en cause, on pense évidemment à Nuit Debout par exemple, mais c'est vrai que même au-delà de Nuit Debout, la question de la représentation est remise en cause, on cherche peut-être un accès plus direct au peuple, à la population, à ses souhaits. Comment comprendre ce soutien des Français finalement à leurs parlementaires, c'est-à-dire cette opposition à l'utilisation du 49-3 comme une violence, Nicolas Rousselier l'a rappelé?
Je ne suis pas absolument persuadé que l'ensemble des sondés, aux 73%, est une idée précise des rapports institutionnels, qui soutiennent les parlementaires en général. Ils perçoivent ça comme un acte d'autorité de l'exécutif, dans le cadre d'une posture qui est quand même celle de notre Premier ministre depuis plusieurs mois, dans le sens de je représente, je vais contre, j'affirme mon autorité. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail. Je voulais réagir en fait à votre question sur le bonapartisme, pas du tout sur le qualificatif qui demanderait, et mes collègues seraient mieux placés que moi pour entrer dans le détail, mais qui demanderait des analyses tout en nuances sur les différentes formes de pouvoir favorisant une personne politique, une autorité politique identifiée à une personne. Mais il me semble que de manière générale, il y a un problème, alors qui est plus ou moins sensible selon les périodes, selon la difficulté, les difficultés économiques et politiques et sociales. Il y a un problème dans la Constitution française qui, à ses justifications, on a appelé les conditions de son émergence ou de sa formulation, mais dans le fait que elle a des effets sur le personnel politique, sur le type de personnel politique qui est formé. Elle a des effets sur le type de personnel politique. Or, le type de personnel politique a lui-même des effets sur la perception de la politique par l'électorat. Je pense que la question de la représentation, on peut discuter aussi, rentrer dans le détail de la représentation, mimétisme, non-mimétisme, etc. Mais si le problème de la représentation
le fait qu'elle soit mise en question, est-ce qu'elle est bien faite, est-ce qu'elle est mal faite, est-ce qu'on est pour ou contre la représentation, bon, ça court sous différentes formes dans toute l'histoire des républiques depuis le 19e jusqu'à aujourd'hui, et même d'ailleurs bien avant sur mon site sur la représentation, mais plus spécifiquement sur la France, il me semble qu'il y a dans le discrédit de la politique, dont on parle aussi au niveau européen, dont on parle aussi en Allemagne, il y a quelque chose de particulier en France lié, me semble-t-il, à la Constitution.
Oui, mais ça, vous avez raison, mais la vraie singularité du système politique français, c'est l'élection du président de la République. Et la force politique donnée tous les 5 ans, je regrette que ce ne soit plus tous les 7 ans, mais aujourd'hui c'est tous les 5 ans.
Vous n'êtes pas le seul, manifestement. Hein. Pourtant, la majorité des Français, et même la majorité de ceux qui ont soutenu
les choses comme elles sont.
Cette réforme constitutionnelle.
À partir du moment où vous avez tous les 5 ans un grand débat que les Français adorent, 80% de votants en 2012 pour l'élection présidentielle. Bon, vous avez quelqu'un qui est élu, qui est considéré comme le démiurge. Bon, ensuite, logiquement, il a une majorité à l'Assemblée, parce que sinon, il faut... on est vraiment incohérent. Il nomme un Premier ministre, que ce soit M. Hérault ou M. Valls, ça n'a aucune importance, sauf leurs personnalités qui sont différentes. Mais ce Premier ministre, il n'a pas d'existence politique autonome. Il a simplement pour fonction de mettre en œuvre le plus habilement possible la politique pour laquelle le président de la République a été élu. Et d'ailleurs, dans son premier discours, il rend hommage au président de la République et il dit « j'essaierai de faire le mieux possible dans ce cas ». Bon, et c'est ça notre défaut principal, car nous n'avons pas le système d'ajustement qui existe en Allemagne, en Belgique, en Italie, en Angleterre, etc., qui permet de régler, à un moment donné, une grave crise de leadership au sein de la majorité. Bon, le problème aujourd'hui, si on était dans un régime parlementaire pur et dur, bon, je dirais, le Premier ministre démissionnerait, bon, on résoudrait la crise, et puis on nommerait un nouveau gouvernement, comme on l'a fait d'ailleurs avec les gouvernements à secousse, pour reprendre l'expression d'Edgar Faure, sous la 4e République. Mais là, admettez, c'est le vrai responsable de l'opération, c'est quand même le président de la République. Si le président de la République décide de s'en aller, on entre dans 6 semaines de perturbations politiques. Le président du Sénat devient président par intérim, il faut organiser une nouvelle élection présidentielle. Quand M. Berlusconi en Italie a été obligé de s'en aller sous la pression de ses amis, en 8 jours, le problème était réglé. Et c'est ça la difficulté du système politique français. Mais quel est le candidat à l'élection présidentielle qui va aller se présenter en avril et mai prochain en disant « je suis le dernier à être élu de cette manière ». Moi, je ne le connais pas.
Alors, on a beaucoup parlé du 49-3, il faut le dire, sans être certain qu'il sera utilisé sur cette deuxième lecture du projet de loi El Khomri. Peut-être il faut inverser un petit peu la focale et s'interroger sur véritablement la force du Parlement, ce qui pourrait le renforcer. Il ne reste plus beaucoup de temps pour le faire. On l'a dit, il y a comme outil dans cette alinéa 3 de l'article 49, il y a cette motion de censure. Est-ce que c'est suffisamment puissant, Nicolas Rousselier? Est-ce que on a beaucoup dit, il est plus facile de voter contre la confiance que pour la censure, c'est-à-dire dire, c'est une motion de censure, donc c'est très difficile pour les parlementaires de la voter, alors que si on leur posait la question de la confiance, peut-être que les choses seraient un peu différentes. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, une question de confiance à l'ancienne, probablement aurait déjà fait chuter plusieurs fois Valls. Mais là, on n'a plus de question de confiance. On a cette motion de censure avec un délai pour la déposer, un délai pour la faire voter. Et puis, politiquement parlant, dans la conjoncture actuelle, les frondeurs socialistes ne veulent pas mêler leur voix à l'opposition de droite. Donc, c'est ça qui sauve effectivement Valls d'un risque de motion de censure. Mais pour prendre un peu de la hauteur, on peut dire aussi que on est dans une conjoncture très particulière où à la fois beaucoup de personnes soulignent effectivement les défauts ou le caractère de force qui en fait cache une faiblesse de la Ve République, mais je veux dire la Ve République actuelle. Et en même temps, on n'a pas du tout l'impression d'une possibilité de rénovation du Parlement, ni par les frondeurs, ni par... Prenez, c'est un sujet dont on ne parle pas suffisamment, prenez par exemple la séquence du Sénat. C'est-à-dire que là, le Sénat, entre 2 lectures de la loi El Khomri par l'Assemblée nationale, le Sénat a fait son travail. Là, il n'y a pas de 49-3 possible. Donc le Sénat, à majorité de droite, a largement refait des faits, comme Pénélope, la loi El Khomri. Mais le projet complètement rénové revenant du Sénat n'a aucune chance de passer
à l'Assemblée
nationale. Parce qu'il y a aussi là des armes de parlementarisme rationalisé, la commission mixte paritaire, et le fait que le gouvernement peut décider de donner le dernier mot à l'Assemblée nationale.
Ce qu'il fera.
Donc, ce qu'il fera. Du coup, à quoi a servi le travail du Sénat ? Peut-être que sur tel point très technique, un amendement qui, je dirais, est de bon sens, peut être repris par le gouvernement et donc par l'Assemblée nationale, mais pas, si vous voulez, le travail d'ensemble. Donc on est aussi dans un parlementarisme qui est en train, en fait, de dévoiler, y compris sa crise de raison d'être.
Catherine Colotelen, ce que vient de dire Nicolas Rousselier, ça nous interroge. Est-ce que le Parlement, c'est un lieu de travail de la loi ou un lieu de théâtre politique, en définitive? Est-ce que, voilà, le travail que viennent de faire les sénateurs, la majorité de droite, est-ce que c'est pour affirmer une position politique ou est-ce que c'est dans l'intérêt, finalement, de la production législative?
De travail, il faudrait regarder, ce que je n'ai pas fait, écouter exactement ce qui se fait à l'intérieur des commissions. Je ne doute pas qu'il y ait un certain nombre de parlementaires qui fassent très sérieusement le travail. Mais sur le plan de la façon dont c'est perçu... Non, d'abord, ça fonctionne effectivement, en l'occurrence, comme lieu d'affirmation de la droite contre la gauche, quand il faisait ces modifications, il savait que ça servait à rien. Et là c'est effectivement inquiétant sur l'utilité de ce travail. Il reste que... sur le rapport entre le Sénat et l'Assemblée en France, je ne me prononcerai pas sur les différents systèmes. Il y a eu la plupart des systèmes politiques que nous connaissons, deux assemblées, qui sont composées de manière différente. Je ne me prononcerai pas. Mais sur l'utilité de la discussion, il était question... J'ai pas mal travaillé sur Max Weber, qui avait fait l'éloge, qui avait milité pour le développement des commissions parlementaires, mobilisant des gens et une expertise, et de façon à développer, pour lui, ça appartenait à l'idée qu'il se faisait la démocratie, même si c'est pas un terme qu'il affectionnait, mais enfin, en gros, la démocratisation qu'il souhaitait du régime qui se mettait en place en Allemagne dans les années 20, il souhaitait donc, pour développer la discussion, avec l'idée que ça avait une fonction éducatrice par rapport à la population. La question est de savoir si ces discussions sont suffisamment répercutées pour avoir une fonction éducatrice quelconque. Je ne parle pas de leur intérêt intrinsèque, il peut être réel, mais est-ce qu'il a cette fonction éducatrice, est-ce qu'il peut l'avoir? Je ne peux pas prononcer.
À mon avis, elle est plus grande qu'elle n'a été à cause des moyens techniques actuellement de diffusion de l'information. Je dirais, on a accès de n'importe où en direct au débat de l'Assemblée nationale et du Sénat, ce qui est merveilleux, notamment pour les historiens, le juriste, quand on a besoin de travailler, on a tout en ligne. Bon, alors, vous évoquiez la discussion. Parlementer, c'est parler. Mais le Parlement est d'abord un lieu de la parole. Et c'est une parole dont on espère qu'elle va devenir consensuelle à force de convaincre celui qui ne l'est pas au départ. Bon, c'est de la théorie parce que l'expérience montre que dans aucun pays, on arrive, sauf circonstances très exceptionnelles, à un résultat de ce type. Mais c'est quand même important de parler, que ceux qui sont pour le disent et que ceux qui sont contre comprennent pourquoi ils sont pas d'accord. Et je crois que ça, la formalisation du désaccord est un élément important de la vie démocratique. Sur quoi est-ce qu'on n'est pas d'accord? Ne serait-ce que pour alterner ensuite au moment de nouvelles élections. Alors quant au problème du Sénat, c'est un problème permanent à chaque fois que les deux assemblées n'ont pas la même majorité. Quand elles ont la même majorité, on dit que ça ne sert pas à grand-chose. Et quand elles ont des majorités différentes, on dit honnêtement, on perd son temps. Ce n'est pas tout à fait exact, car actuellement, il y a un nombre non négligeable de lois qui arrivent à être votées conformes par l'Assemblée nationale et le Sénat. Pour des raisons de bonne volonté réciproque, on n'est pas dans un Sénat d'opposition totale. Mais sur les textes à fort contenu politique, on est dans la politique. Et si vous admettez que la politique est du théâtre, vous avez la réponse à votre question.
Nicolas Rousselier, concrètement aujourd'hui, est-ce que c'est le Parlement qui fait la loi ?
Le parlementarisme n'a jamais été un moyen de séparer l'exécutif et le législatif. Au contraire, le parlementarisme de la première époque a été un moyen de faire collaborer l'exécutif et le législatif. Deuxième époque, disons depuis les années 50-60, maintenant on est dans un parlementarisme où l'exécutif est le directeur, le dirigeant du travail législatif. C'est ça la différence. Et il a des instruments à son service pour pouvoir assurer ce rôle de direction. Certains vont juger que ce rôle de direction est quasiment dictatorial à certains moments, dans certaines conjonctures. Et d'autres vont considérer, c'est l'interprétation gaulliste, que cette direction est un impératif, parce qu'on ne peut pas accepter, par exemple, de passer des mois à discuter de 1000, 10 000 amendements. Il y a aussi l'obstruction parlementaire. Il faut gouverner, il y a un impératif. C'est le paradigme qui a changé, en fait.
Catherine Colotelaine, est-ce que la démocratie serait meilleure si on était dans un système où la loi était faite directement par le peuple, sans passer par la représentation?
Oula,
la publicité. Il vous reste une minute trente.
Oh là, directement par le peuple, je vois pas comment, parce que le peuple, ça n'existe pas, si vous voulez. Le peuple, il est bon. Si la question est de savoir si des formes plus directes de participation de l'électorat, hein, défini comment à l'élaboration de lois ou des réglementations qui peuvent être aussi des plus régionales, qui sont nécessairement la loi, est favorable, ça favorise la démocratie, oui. L'idée que le peuple, l'invoquer le peuple simplement contre les institutions,
de fait,
les citoyens, je pense qu'il y a une demande de participation, de démocratie directe, de démocratie participative, etc., qui répond au fait que il y a un problème de rapport entre, disons, les élites politiques, la classe politique et ce qu'on appelle, pour aller vite, la société civile. Encore que la société civile, j'aime pas non plus en parler au singulier parce qu'elle est divisée.
Elle est divisée. Est-ce que, pour terminer, oui, il ne reste plus beaucoup de temps, donc voilà, est-ce que ce serait une solution, revitaliser le Parlement, en trouvant un moyen de faire participer les citoyens plus régulièrement?
Il y a des réflexions actuellement qui se font pour articuler le travail des commissions parlementaires, donc la fabrication de la loi, à effectivement des procédures de consultation, le mot est faible, des procédures véritablement où s'engagent des formes de jury citoyen, etc. Mais il faudra toujours se souvenir, et on voit très bien avec la loi El Khomri, que faire un travail législatif, c'est beaucoup, beaucoup de travail. C'est évidemment technique, c'est très long. Donc, si on parle de participation des citoyens, l'idée est intéressante, mais de toute façon, il faut se souvenir que c'est un travail. Donc, en quelque sorte, c'est un peu comme des membres d'un jury en cour d'assises. Il faudrait les prendre par tirage au sort, tout en leur disant qu'ils peuvent passer des heures et des heures à faire ce job.
Didier Mauss,
il y a simplement, moi, je suis totalement d'accord sur tous les mécanismes qui permettent de mieux associer les citoyens au travail législatif. Et grâce à Internet, on peut faire des quantités de choses. On peut fixer, par exemple, des délais, des périodes pendant lesquelles les gens intéressés enverront à la commission compétente des propositions d'amendements à charge pour la commission.
Il y a eu la loi Le Maire hein, qui a été
non, mais on peut faire un état de choses. Ceci étant, il y a quand même un principe en démocratie, et qui n'est pas récent, parce que je relisais récemment Aristote, donc il y a 25 siècles, c'est que la décision est prise par la majorité et non pas par la minorité. Et c'est un principe quand même de base, et de temps en temps, il faut quand même y revenir.
Et il y a le principe d'unité de lieu, voilà. Et de faire une délibération en présence réelle, pas virtuelle, en présence physique, ça c'est aussi très important.
Direct, hein. Et sous le regard du public.
Voilà, quelques pistes peut-être pour revitaliser le Parlement. Peut-être finalement qu'on n'en aura pas besoin. Peut-être que le 49.3 ne sera pas utilisé sur cette deuxième lecture de la loi El Khomri. Seul l'avenir nous le dira. Merci beaucoup à vous trois, Nicolas Rousselier, Didier Mauss, Catherine Colliot-Hélène. On retrouvera les références de vos ouvrages divers et qui concernent en particulier le sujet qui nous occupait ce soir sur le site de France Culture, à la page du Grain à Moudre d'été. Vous pourrez également réécouter et podcaster cette émission, une émission préparée avec Alexandre Agège, Laurence Genepin, Marie Delquier et Tanguy Omri. À la réalisation ce soir, c'était Véronique Villa, à la technique Clément Daté. Demain, on parlera de Daesh, tout autre sujet, Daesh entre repli militaire et Ramadan sanglant. Bonsoir à tous.